Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Déplorait dans la grande vadrouille, Bourville et Louis de Funès devant un planeur. C'était peut-être aussi ce que se disait l'ingénieur-inventeur Frédéric Sauvage au début du XIXe siècle en contemplant les bateaux. Toujours est-il qu'il n'eut de cesse de tenter de convaincre ses contemporains de la marine d'équiper leurs navires du modèle d'hélice qu'il avait breveté. Cela finit par se concrétiser en juillet 1843, quand le Napoléon, premier vapeur français propulsé par une hélice, quitta le port du Havre pour rallier celui de Cherbourg en 7 heures. Un événement qui, pour Frédéric Sauvage, arrivait après des années d'un combat acharné et bien des déboires qui étaient racontés aux auditeurs d'Interactualité sur les ondes de la RTF en 1960.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler. Ce soir, Frédéric Sauvage, vulgarisateur de l'hélice. Une évocation de Marcel Thomas.
Le 21 juillet 1843, le Napoléon, premier bateau français à vapeur propulsé par une hélice, faisait son entrée majestueuse dans le port de Cherbourg pavoisé après avoir quitté le Havre 7 heures plus tôt. Frédéric Sauvage, précurseur du remplacement des roues à aubes par une hélice, triomphait. Malheureusement, ces théories s'imposaient sans lui, car à l'heure où Augustin Normand, constructeur du navire, recevait la Légion d'honneur sur le pont du bâtiment, Frédéric Sauvage était incarcéré pour dette à la prison du Havre. Pour bien juger de la situation, un retour en arrière est nécessaire.
Précisons tout d'abord que Frédéric Sauvage n'a jamais revendiqué l'invention de l'hélice que connaissait déjà le grec Archidas quelques 400 ans avant Jésus-Christ. Mais il consacra sa vie à préconiser l'adoption de l'hélice pour la propulsion des bateaux. Il fut un inlassable vulgarisateur qui sacrifia ressources et santé au triomphe de ses théories. Mais qui était Frédéric Sauvage?
Né le 20 septembre 1786 à Boulogne-sur-Mer, où son père était constructeur de bateaux, son adolescence fut bercée par les rêves napoléoniens d'invasion des îles britanniques. Il n'avait pas 20 ans que dans les bureaux de la marine où il travaillait, il cherchait le moyen mécanique de reproduire le mouvement des rames. Après la chute de l'Empire, il succède à son père à la tête de l'entreprise familiale. Mais la puissance des machines à vapeur montées sur les bateaux progresse rapidement et le système de propulsion par roue à aube devient lourd et encombrant. En 1831, alors que le gouvernement de Louis-Philippe se prépare à mettre en chantier de nombreux bateaux à vapeur dotés de roues à aube, la solution du problème qui obsède Frédéric Sauvage s'offre brusquement à lui. Alors que d'un œil distrait, il suit les évolutions d'un poisson rouge dans un bocal, il s'écrie.
Mais voilà le meilleur propulseur. Cet effet de godille de la queue du poisson qui prend constamment appui sur le liquide et se visse littéralement dans l'eau par son mouvement sinueux.
Puis il poursuit.
Connaissant la puissance de la godille, je vais m'attacher à reproduire son effet par un mouvement continu susceptible d'utiliser la vapeur.
Et 10 mois plus tard, Frédéric Sauvage, avec une tige de bois sur eau, des aiguilles piquées en spirale perpendiculairement à la tige et un morceau de toile huilée venant s'appliquer sur les aiguilles, réalisait sa première hélice. Puis il adapta ce fragile prototype à un bateau miniature de 545 grammes. C'est avec ce prototype qu'il fit ses premiers essais comparatifs. Le 15 janvier 1832, à Boulogne-sur-Mer, devant l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, son prototype parcourut 7 mètres 244, alors que le même bateau équipé de roues à aubes ne put couvrir dans le même temps, d'une minute, que 2 mètres 632. Un mouvement d'horlogerie animait les deux systèmes. Les résultats sont convaincants et l'enthousiasme est général. Des concours s'offrent, mais le caractère difficile de Frédéric Sauvage se manifeste. À une amie d'enfance, important actionnaire de la société en formation qui émet un léger doute sur l'avenir de l'hélice, Sauvage réplique sèchement
« Madame, pensez donc à raccommoder vos choses et laissez aux hommes leurs grandes entreprises. »
C'est ce qu'elle fit et le projet de société échoua. Seul, Sauvage poursuit ses recherches. Il demande et obtient un brevet de 15 ans en date du 28 mai 1832 pour...
Un appareil nouveau destiné à remplacer les roues sur les bâtiments à vapeur.
Brevet en main, Sauvage rencontre l'amiral d'Origny, ministre de la Marine. Des essais ont lieu devant une commission spéciale. Il s'achève dans l'enthousiasme lorsqu'un personnage officiel très important demande à Sauvage « Pourquoi vos hélices sont-elles à l'arrière et non pas à l'avant ?»«
Pour la même raison, monsieur, que les poissons n'ont pas la queue sur la tête », répliqua sèchement Sauvage. L'enthousiasme fait place à la consternation et les conclusions de la commission lui sont défavorables. Pourtant, Sauvage ne se décourage pas et, comme des esprits malveillants chuchotent, que les hélices actionnées jusqu'ici par la force musculaire des hommes ne fonctionneraient pas lorsqu'elles seraient actionnées par la vapeur. Pour faire taire ses détracteurs, il faut à Sauvage un véritable bateau à vapeur qu'il équipera de ses hélices. Mais il est à bout de ressources, malade, perclus de rhumatisme. Pour se procurer les fonds nécessaires, il invente le physionotype, machine à prendre l'empreinte des visages par un système d'aiguilles émoussées et coulissantes. Il suffit d'appliquer la figure sur l'appareil et de couler ensuite du plâtre pour obtenir une exacte reproduction. Les longues séances de pause sont supprimées. Plein d'espoir, Sauvage rencontre Émile Girardin qui lui donne 15 000 francs et s'associe avec lui. Ses journaux assureront la publicité du physionotype. Bientôt, Alexandre Dumas, Guizot, La Roche-Jacquelin se font physionotyper. L'élan est donné. Et un jour, Louis-Philippe et toute la cour font appel à Frédéric Sauvage. Celui-ci s'installe aux Tuileries en pensant au bateau qu'il va pouvoir construire lorsqu'un conseiller du roi, examinant le moulage en plâtre de son visage, dit à Sauvage
« Je ne retrouve pas à mes traits leur expression accoutumée. »
« Est-ce votre figure ou la mienne qui vient d'être placée dans le physionotype ?» répond Sauvage.
« C'est la mienne. »«
Et vous n'êtes pas ressemblant. Eh bien, vous allez voir. »
Et appelant un de ses aides, il lui commande
« Passe une couche de blanc de chaux sur la figure de monsieur afin qu'il voit dans une glace comme son visage blanchi ressemble au moulage de plâtre. »
Sitôt dit, sitôt fait, et Sauvage fut chassé des Tuileries et les clients désertèrent son atelier. En 1835, alors qu'il se trouve aux prises avec de nouvelles difficultés financières, l'Angleterre lui offre plusieurs centaines de milliers de francs pour obtenir l'exclusivité de son brevet. Sauvage refuse en déclarant fièrement
« L'hélice est une invention française, elle le restera. »
C'est alors que Frédéric Sauvage rencontre messieurs Augustin Normand, constructeur de navires, et l'anglais Barnes, constructeur de machines à vapeur.
Le 20 juillet 1841, les trois hommes signent un accord au terme duquel Sauvage concède gratuitement, pour un seul bâtiment, le droit d'employer le système qu'il a inventé.
Aussitôt cet accord signé, messieurs Normand et Barnes proposent au ministre des Finances la construction d'un paquebot-poste destiné aux liaisons entre la métropole et la Corse. Ce ministre, en accord avec l'amiral Dupéré, ministre de la Marine, accepte la proposition en indiquant toutefois que le navire devra atteindre une vitesse minimum de 8 nœuds à l'heure pour être réceptionné.
La construction du navire que l'on baptise Napoléon est aussitôt entreprise au Havre, mais bientôt de violentes discussions éclatent avec Sauvage sur la forme à donner aux hélices, et c'est la rupture.
Quelques mois passent, puis sur plainte d'anciens fournisseurs impayés, Sauvage est emprisonné pour dette à la maison d'arrêt du Havre, alors que le Napoléon subit des essais concluants. Quelques jours avant la traversée victorieuse, le baron Séguier, membre de l'Académie des sciences, avait écrit à Sauvage emprisonné la lettre suivante.
« Je reviens du Havre. J'ai vu le Napoléon. Je viens d'écrire à monsieur le général Rumini, aide-de-camp du roi, la position où vous vous trouvez en ce moment, où votre conception va enfin triompher. Ma lettre a été placée sous les yeux du roi. Je vais faire proclamer la vérité à la tribune de la Chambre des députés à l'occasion du budget de la marine. » Je veux que tout le monde sache que l'hélice est une invention française. Le fermier Smith ne dépouillera pas l'ingénieux et persévérant constructeur de Boulogne-sur-Mer.
Deux mois plus tard, Frédéric Sauvage était libéré. Bien que dans le plus profond dénuement, il refuse la souscription publique que le journal anglais Le Buiteur propose à ses lecteurs. Enfin, le 27 décembre 1843, le baron de Mâcon, ministre de la Marine, lui accorde une pension de 2000 francs par an. Malgré tous ses déboires, Frédéric Sauvage n'a rien perdu de sa fierté. Et un jour que l'employé qui lui versait sa rente lui dit, tendant les billets, « Voici votre secours », Sauvage, qui ressemble maintenant à Victor Hugo vieillissant, secoue sa crinière blanche et réplique
« Sachez, monsieur, que j'ai droit à la reconnaissance du pays et au secours de personne. »
Mais sa santé s'altère de plus en plus. Sa raison chancelle. Le 13 avril 1854, il est interné dans une maison de santé de Picpus où il s'éteindra enfin apaisé le 17 juillet 1857.
7 jours auparavant, ironie cruelle du sort, Napoléon III avait décidé de solder par prélèvement sur sa cassette personnelle les dettes que Sauvage avait contractées sa vie durant pour doter d'une hélice les bateaux français.
Vous venez d'entendre Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé.
C'était Édition spéciale, Frédéric Sauvage, vulgarisateur de l'hélice, une évocation de Marcel Thomas pour Interactualité, diffusée la première fois le 9 juin 1960 sur les ondes de la Radio-Télévision française. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Nacional.